Merci d'abord de m'avoir convié à participer à ces deux journées que j'ai trouvées extrêmement denses, avec de nombreux points dont j'ignorais parfois l'existence même. Donc, j'ai appris beaucoup de choses et je vous en remercie vraiment. Alors ensuite, bon, et puis ça m'a permis de retrouver de vieux amis. Je parle pas de Trémaux, mais un vieux complice comme Alain Philippon, avec qui on avait décrit à l'époque les BLSE qui ont eu le succès que vous connaissez, en même temps que nos collègues de Clermont-Ferrand, ça date de plusieurs dizaines d'années. Bon, donc je suis très content d'être là. Alors, j'ai pris quelques petites notes quand même, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Pour répondre à votre question, j'ai été nommé délégué ministériel auprès du ministre de la Santé, de la ministre de la Santé, à l'antibiorésistance. Voilà, point.
Pas encore interministériel, mais ça vient.
Et donc, en effet, ça n'est pas interministériel, mais je vais vous expliquer après que la mission est néanmoins interministérielle. Donc, les choses sont toujours très simples. Vous savez, en France, on fait simple, mais on va arriver à des choses compliquées. Alors, donc vous m'avez demandé de faire une conclusion, ce qui n'est pas une tâche facile, vu, comme je l'ai dit, la densité de l'affaire. Je dirais qu'on est actuellement quand même, parce que j'ai entendu des propos optimistes et pessimistes, peut-être plus souvent pessimistes qu'optimistes, enfin bon. Moi, je vais être résolument optimiste. Je pense qu'on est véritablement à un moment où les choses sont en train de changer du point de vue de l'antibiorésistance. Il y a une vraie prise de conscience. Alors, elle n'est pas encore perceptible partout, hein, mais il y a une vraie prise de conscience au niveau national, dans certaines instances, au niveau européen, et heureusement, nous avons les Hollandais qui président la communauté européenne pour les 6 mois. Et alors, pour eux, c'est quelque chose, comme vous savez probablement, qui est extrêmement important, l'antibiorésistance. Et donc, ils ont mis ça en priorité, et c'est très bien, parce qu'ils poussent fort. L'OMS pousse fort aussi, avec son plan d'action global, que vous avez probablement vu. Et dans tout ça, il y a des exigences qui sont assez fortes pour les États. Alors, je trouve que ça tombe très très bien et j'en suis personnellement particulièrement heureux parce que ça a beaucoup m'aider, je pense. Ça a beaucoup m'aider à faire avancer le sujet. Alors, il y a le fait que dans cette évolution et dans cette prise en compte du problème, le problème est également porté à un niveau, je dirais, de sécurité. Et ça, c'est important parce que du niveau de quelque chose dont on parle éventuellement dans les réunions scientifiques et pas plus loin que ça, c'est problématique au point de vue de la visibilité. Et le fait que le problème soit porté au niveau de la sécurité, il est pris en compte par la commission de santé et sécurité au niveau européen, est à mon avis un signe que les choses sont en train de bouger. Par ailleurs, il y a aussi des éléments qui nous inquiètent un petit peu quand même. Alors, le sujet était, un des sujets principaux de ce colloque était l'environnement. L'environnement, son rôle, sa participation à la résistance, au phénomène de résistance, d'une manière générale, à leur persistance, transmission, etc. Bon, je dirais qu'il y a quand même des modèles pour lesquels on peut dire il y a de manière claire une relation environnement, résistance. Il y a la vieille histoire, comme on l'a dit, des BLSE qui nous ont été fournis gracieusement. Il y a l'affaire du SARM animal dont on a bien exposé que l'homme avait passé du SARM à l'animal, lequel animal avait fait sien ce SARM, puis, enfin, même si au départ c'était une souche sensible, et puis transformé en SARM, et retour à l'homme. Ça c'est quand même un modèle extrêmement intéressant et qui montre bien que c'est compliqué parce que ça va dans les deux sens, mais que ça arrive et que ça peut être un problème qui cause même des patients, des histoires qui ont été tout à fait médiatisées. Il y a une troisième histoire qui est celle des colites entéro-hémorragiques. Alors là, c'est l'agroalimentaire peut-être dont on a peu entendu parler. Je veux dire, on a un petit déficit sur l'agroalimentaire qui va peut-être essayer de combler. De même qu'il y a un déficit de connaissances, j'entends, sur l'aquaculture et ses conséquences. On a vu des travaux formidables sur comment les antibiotiques se retrouvent dans l'environnement proche, plus ou moins loin, des effluents qui sont déversés, comment les résistances peuvent s'y retrouver, peut-être un peu plus loin que les antibiotiques eux-mêmes. Donc ces choses-là sont des points qui sont importants, qui sont à creuser. Je n'ai pas entendu l'aquaculture, donc... il va falloir intégrer l'aquaculture. D'ailleurs, j'ai remarqué que dans un de ces très beaux schémas où on voit l'hôpital, où on voit la maison, où on voit tous les éléments qui contribuent, on passe par la station de traitement, mais l'élevage piscicole, il passe directement, lui. Et donc, il y a un bypass là qu'il va falloir examiner. Donc voilà, je pense qu'il y a suffisamment d'éléments tangibles pour dire clairement l'homme, l'animal, la contamination de l'environnement, c'est des choses dont on peut être quasiment assuré à l'heure actuelle. Et peut-être qu'il faut plus attendre. Je pense que c'est un des messages que l'on peut transmettre maintenant. Il faut plus attendre d'avoir une nouvelle crise sanitaire, peut-être comme celle des cochons. Alors, je ne sais pas si nous en France, effectivement, il y a eu peu de situations à problème avec les SARM d'élevage. Mais enfin, effectivement, ils ont été exportés à droite et à gauche. Et j'ai entendu que nous exportions des poulets avec de la BLSE au Danemark. Je ne suis pas sûr que les Danois soient contents. Il y a un problème qui va être posé. Sur le commerce alimentaire qui est posé manifestement avec ce que nous avons ce que vous avez décrit dans différentes situations. Alors c'est là qu'on se dit oulala, oui, en effet, il y a un problème d'interministérialité qui va pas être tout à fait évident. Donc voilà les réflexions que ce sont mes opinions personnelles, je voudrais être clair, ceci ne reflète en rien les opinions du ministère de la Santé. Juste. Enfin, voilà la perception que j'en ai maintenant. Alors, il y a des réponses. Quelles réponses? Qu'est-ce que nous avons? Bon, effectivement, je salue le travail qui a été fait par le groupe de travail spécial piloté par Jean Carlet, parce que dans un temps assez record, il faut dire, en se réunissant souvent, en tout cas, il y a des propositions intéressantes. Peut-être pas abouties dans tous les domaines, mais il y a des propositions intéressantes. En dehors de cette histoire de comité ministériel interministériel, qui est quand même effectivement probablement un premier pas pour mettre autour de la table les gens concernés et essayer de les mettre, de les faire mettre en musique ce qui est contenu dans le rapport, ce à quoi je vais m'employer, puisque c'est ça la mission. En dehors de cet aspect-là, ce qui est déjà un grand pas en avant, on peut arriver à quelques propositions, j'espère, qui vont aboutir. Alors, vous avez entendu, très probablement, que déjà une première mission d'expertise collective est confiée à l'ANSES. C'est quelque chose qui était dans les starting blocks et qui arrive. Donc, c'est une première mission, ça c'est important. C'est important de synthétiser, en fait, et de rassembler les informations dont une bonne partie a été présentée ici, mais de voir ce qui manque et ce qui doit faire l'objet d'analyses et d'études complémentaires. Je crois que c'est vraiment important. Il est très clair que l'aspect recherche dans tout ce problème-là est majeur. Nous verrons ensuite si le comité d'ici, donc dans le courant de l'année, comment le comité interministériel dont les travaux vont être préparés dans les mois qui viennent, quelles sont les autres propositions qui peuvent être mises en avant. Par exemple, on peut espérer que la préconisation d'un plan qui figure dans les recommandations européennes, très fortes, qui est d'avoir un plan commun entre la santé humaine, la santé animale et l'environnement, sur le plan de le contrôle et de la maîtrise de la résistance, puisse être élaboré. C'est la première recommandation qui figure dans le plan OMS, qui figure dans le plan européen. Alors ça tombe bien parce que nous avons deux plans qui s'arrêtent cette année. Donc peut-être qu'on peut arriver à faire quelque chose de commun, je ne sais pas, j'espère. On va voir, à condition de ne pas oublier le troisième partenaire. Donc voilà les réflexions que je faisais. Alors j'ai été particulièrement intéressé et admiratif de l'ensemble des innovations qui sont faites, qui sont en cours, qui sont en développement. C'est tout à fait remarquable, je trouve. J'espère bien sûr que nombre d'entre elles vont aboutir, notamment pour ce qui concerne les alternatives, les moyens de réduire la toxicité des antibiotiques, d'améliorer leur façon d'être prise. Il y a des pistes là qui sont tout à fait intéressantes et c'est vrai qu'on est pas mécontent de voir que dans le fameux groupe BIM piloté par Florence Séjourné, il y a une majorité de biotech françaises, c'est très très bien et personnellement je m'en réjouis. Voilà, quelques réflexions que je me suis faites en assistant à ces deux jours, dont encore une fois je vous remercie.